Bonjour, c'est Alban Penaranda des Nuits de France Culture. Pour célébrer les 60 ans de notre chaîne, je vous propose de découvrir ou redécouvrir certaines archives iconiques distinguées par de prestigieux prix. Des émissions qui ont marqué leur époque et l'histoire de la création radiophonique.
Nuit magnétique, bonsoir.
Là, je vais essayer d'imiter le cri de la chouette hulotte. C'est un rapace nocturne qui vit dans ces bois et qui a l'habitude de se reproduire ici. Et quand on imite son chant, elle a l'habitude de répondre parce que c'est une agression territoriale. Et donc, elle vient au moins voir... Quel est cet adversaire, ce partenaire qui chante dans son territoire?
Jean du Marais. Mehdi El Hadj, Jean-Pierre Gerbeau, Jean-Pierre Milovanov. Jean-Michel Roy, Saint-Hilaire-la-Palue, dans le Marais mouillé.
Les gens du Marais passent pour être froids. Ils sont méfiants d'abord. Parce qu'il faut bien dire que les gens qui sont venus habiter dans le Marais, puisque cette zone était une zone... C'est marécageux, bon, c'est ce que ça veut dire. Il y avait de l'eau partout, c'était pas hospitalier du tout, c'était absolument pas exploité. Les gens qui y venaient, c'était les gens qui voulaient partir de la plaine. C'était ceux qui voulaient être libres, surtout dépendre de personne. Alors là, bon, ben les terres étaient à n'importe qui. Les terres, les vases ou les îlots étaient à n'importe qui. Chacun s'installait, il défrichait autour de l'endroit où il voulait s'installer. Et puis personne ne voulait l'embêter. Il y avait ni seigneur ni. Et au contraire, les abbayes qui étaient propriétaires, si on peut dire. De ces étendues de marais pour la commune de Saint-Hilaire, il y en avait trois surtout. Il y avait l'abbaye de la Grâce-Dieu qui avait une grande étendue de marais, surtout dans le secteur de la Névoire. Il y avait les feuillants de Poitiers qui étaient établis à Mauzé, qui avait tout le secteur de Mazin et de Sazé, et surtout les chanoines du chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers qui avait une grande, grande étendue de marais. Alors, toutes ces abbayes voyez très bien tous ces gens qui venaient de l'extérieur parce qu'ils allaient les aider à défricher, à exploiter, à assainir ces marais. Alors on ne leur cherchait pas d'histoire, bien au contraire, on faisait tout ce qu'on pouvait, même pour que les gens viennent.
Nous on est les descendants, vous tenez, mais oui, c'est ce qu'ils sont venus là, oui, bien sûr.
Constant Nolo.
Il y a des choses que moi j'évite de dire. J'évite de le dire, c'est pas... C'est que... Il est sûr... Enfin, écoutez, je me permets de... Je vous le dis, hein, mais... un peu en confidence. Hein. Il a toujours été dit, et c'est certain, que les îles ont été peuplées au départ par des hors-la-loi qui étaient mis là en pénitence puis ne pouvaient pas s'échapper. Vous voyez, mais ça monte... Alors, de là à dire que les habitants actuels sont descendants des hors-la-loi, ben il y en a qui ont franchi le pas allègrement. Vous comprenez ? Non, c'est pas le cas, quoi. Mais, il est resté un esprit d'indépendance. Ah, ça c'est sûr. Vous savez, pour amener les gens du Marais à penser tous pareil et puis à s'inscrire tous dans la même association, on dit que c'est pas facile. Hein. Il y a, comme on dit, il y a la caboche. C'est des gens que tu as. C'est pas nous. On fait rien, nous, mais qui ont lutté, ils ont lutté, ils ont construit de leurs mains. Avec tout ce que ça supposait. Combien il y a de femmes veuves qui sont restées toutes seules sur les exploitations. Autrefois, beaucoup d'hommes mouraient jeunes pour diverses raisons, dans les guerres, les bagarres. Mais les femmes restaient là, puis elles élevaient, puis ça restait. Alors là vous voyez, c'est un spécimen de début de la construction. C'est à peu près ce qui reste, ça. Puis après, il faut...
Quelle époque?
À peu près.
Oh, ben, 16e, sûrement. 17e, début du 17e. Mais les gens, les premiers habitants, ils sont venus quand même. Ils sont venus très tôt, quoi. L'association syndicale du Marais, la première connue, importante, qui est le petit Poitou où on est, là, c'est 1646. Mais c'était habité bien avant, quoi. Avant, c'était les huttes. Ensuite, il s'est des huttes, des petites cabanes, comme là-bas, voyez-vous, là-bas, le fourni.
René Maté, Saint-Georges de Rex.
On parle des colibères, qui étaient les populations qui très tôt ont colonisé ce milieu. Colibère, je crois que, au niveau de l'étymologie, c'est l'homme libre. Au sens où il n'a pas d'entrave, et effectivement, il n'a pas de compte à rendre. Il était forcément très, très difficile d'atteindre ces zones reculées, où l'eau était toujours présente, où le chasseur prenait sa barque et s'enfilait sur la rigole, les conches. Et précisément, c'était par définition le refuge des proscrits, d'un certain nombre de personnes qui très tôt étaient hors normes et avaient là la possibilité d'échapper à ce qu'a été la circonscription, à un certain nombre de règles qui ont fait que ce milieu était très indépendant.
Hugues Destouches, Saint-Denis-du-Perray.
J'ai sous les yeux... petit spectacle assez unique en France, c'est des chevaliers combattants en train de parader. Ils ont délimité leur arène. Il y a une quinzaine de femelles et 3-4 mâles. Alors les mâles se battent entre eux et les femelles donc restent autour et observent ce petit spectacle. Les mâles de chevaliers combattants au printemps, donc à cette époque-là, ils sont arborés d'une espèce de collerette. Ah, ils viennent de partir là. Ça, c'est sûrement le passage d'un rapace. Alors, il faut regarder en l'air. Souvent, il y a un busard des roseaux. Tiens, il est là-bas. Regardez un peu. Le busard des roseaux fait tout partir. Les barges à queue noire. Et à chaque fois que le busard vole au-dessus de ce plan d'eau, il y a tout de suite les guifettes noires, qui sont des petits oiseaux, des petites mouettes très agressives, qui nichent ici et qui défendent leur colonie et qui se mettent à poursuivre donc ce milan, jusqu'à temps qu'ils quittent en fait la surface du plan d'eau. En parlant des guifettes, elles sont toutes cantonnées dans des petits joncs en bordure de l'eau. Et on les voit, donc on les distingue dans cette végétation là-bas. Autour, d'ailleurs c'est assez étonnant, il y a 7 ou 8 milouins, fuligules milouins. C'est des canards plongeurs qui ont l'habitude de vivre dans des eaux profondes, dans les étangs, dans les lacs. Là, c'est une prairie très, très plate, le niveau d'eau n'est pas très profond. Et on a peu l'habitude de voir ces canards plongeurs. On a surtout ici des canards de surface. On a du canard souché, la sarcelle d'été qui niche ici. La sarcelle d'hiver, il y a encore quelques couples qui vont sûrement tenter de se reproduire. Et bien sûr, le canard colvert et qui est assez abondant. Alors les gros oiseaux de la réserve, là j'en ai un dans la longue vue, c'est le héron cendré qui est sans arrêt en bordure de l'eau. Là, il est à la chasse, il est à l'affût. Hein, il y a des pluviers argentés à ses pieds qui restent complètement indifférents. Et ça, l'éclairage est très bon là actuellement parce qu'il y a un éclairage rasant. Il n'y a pas de contre-jour. L'image est bien nette, c'est vraiment fabuleux. On voit toutes les couleurs de ces oiseaux. C'est une très bonne époque, puisque tous les oiseaux sont en plein plumage nuptial. Et là, tiens, il y a un énorme ragondin qui traverse ma longue vue. Je ne sais pas si on le voit. Là, il va arriver dans la végétation. On voit juste le bout de son museau. Et il va arriver dans les groupes de canards souchés en parade nuptiale. Les mâles actuellement n'arrêtent pas de parader. Ils lèvent et ils montent le cou très rapidement. Alors bien sûr, on voit le cygne qui est un oiseau omniprésent sur la réserve à longueur d'année. Il est en train de se toiletter là. Le ragondin passe devant tranquillement. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah super! Le héron vient d'attraper une anguille. Regardez les voilà les guifettes là. Ils sont en train de l'harceler. Il y a une anguille dans le bec. Alors là, c'est dingue parce que il a relâché l'anguille et il n'ose pas, il n'ose même pas la reprendre tellement il est embêté par les guifettes. Ça n'arrête pas là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guifettes qui viennent le houspiller. Apparemment, ça a l'air efficace. Il a l'air de... il lève même son bec pour essayer de dissuader les guifettes. Là, il a eu chaud. Là. Il est complètement hérissé. Ses plumes sont hérissées. Il y a une... Ça huppe également. Il se gonfle. Il a tendance à se gonfler pour être plus impressionnant. Et là, les guifettes ne se découragent pas, hein, puisqu'elles sont... C'est vraiment leur défense de territoire. Là, il y a des nids à 2-3 mètres du héron. Elles sont de plus en plus nombreuses, d'ailleurs, à l'houspiller. Par contre, les échasses à côté sont complètement indifférentes. Et c'est dingue parce qu'elles ont réussi à lui faire lâcher l'anguille. C'est une petite anguille. Il n'aurait pas mis longtemps à l'avaler. Il est vraiment... C'est vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'il va pouvoir récupérer son anguille? Ça, c'est le mystère. Parce qu'elle n'arrête pas.
Des tartes.
Des tartes? Oh, bah oui. Oui, là dans ce coin, oui. Perdu. Mmh. Mais où on conserve les traditions. Chauffe le four, il y a des femmes, celles qui sont habituées, puis, eh ben, qui apportent leurs tartes.
Ah oui. On aurait dû apporter une tarte aujourd'hui alors.
Ah oui, oui. Ah ben il fallait que je le sache parce que j'aurais chauffé le four ce matin. Parce que au début, il y en avait qui, des dames, des braves dames qui venaient et me disaient « Oh, là on dit que tu chauffais le four. Il est fait une tarte. » « Ben oui, mais le four n'est pas chaud. Mais t'as qu'à le chauffer. » Ah ben j'ai dit « Mais ça se fait pas comme ça. Il faut 2 heures au moins pour qu'il soit prêt. »
Où est-il ce four?
Vous voyez la porte? Il n'y a pas de porte, c'est l'entrée de... C'est le fournil, ça.
Fournil?
Fournil. Alors ça, ce sont des bâtiments d'origine. Regardez la couleur de la pierre. Ça, c'est la laiterie qui a été réaménagée un petit peu après. Il a été fait des trucs en ciment. Là, vous voyez, c'est bon. Là, c'était pour mettre les pots pour faire cailler le lait. Et les gens faisaient leur beurre et du fromage. Vous croyez pas que c'est bon, notre marais? Regardez donc. Il est bon, notre marais. Regardez donc.
Vous l'aimez?
Ah, ben si je l'aimais pas, je ne serais pas. Si je n'aimais pas ma femme, je ne serais pas marié avec elle. C'est pareil. Bon, allez. Alors voilà. Et il est prêt en permanence. Parce qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps sans être chauffé.
Ah bon?
Alors ça. C'est pour mettre le chaudron, ça.
Ça?
Parce qu'il faisait le feu, là, la cheminée, c'est une jument qu'il avait écroulée. Alors là, c'était pour mettre. Suspendre la marmite, vous voyez, voilà. Un récurseur là, ça se déplaçait, on mettait ça sur le feu. Et pour enlever la soupe de la marmite, et pour y tirer là, puis il l'amenait là, il n'était pas sur le feu. Et pour mettre les légumes dans le pot, on disait, bon, ben, on le faisait là, puis après, hop là, sur le feu. Alors le four, ben, c'était un lieu de rassemblement, puis c'est là, donc il faisait le pain. Bien sûr. Et je continue à chauffer.
Qu'est-ce que c'est ça?
Mais c'est la bouse. C'est la bouse. Je voudrais en prendre une belle. C'est la bouse. Il y a la troisième là, qui devrait être belle. Ça, c'est la bouse de façon. La bouse fabriquée.
Que vous mettez?
Oh, ben je mets ça, ce sont des fans de haricots, puis du papier, puis après du bois. Oui, ça c'est pour allumer, pour que ça aille plus vite. Puis alors, vous voyez, là, ça je le dis pas souvent, mais pour que ça démarre bien, il faut allumer sur un côté, pour que l'air froid qui est dans le fond, puisse ressortir. Autrement ça ne démarre pas. Il faut laisser un courant d'air, quoi. Si, comme on dit, on bouche la goule, parce que ça, en patois, vous savez comment ça s'appelle, ça, et la goule au four. La gueule du four.
La goule du four.
La goule au four. J'ai souvenir, moi, des grands noms, des grands pères, chauffer le four à Pâques pour faire la galette de Pâques. Ah ben, c'était pas rien, parce qu'il n'y avait pas des fours dans toutes les maisons. Alors les voisins qui étaient bien ensemble, bon ben, c'est une vieille habitude, ben, un tel dans le quartier, ben, c'était donc pour un tel, pour un tel, et puis... Ça entretenait les bonnes relations. Et les grands-pères chauffaient le four. Ils n'avaient pas la pause avec les mémés. Mais fais attention, voyons. Mais t'es encore parti. Mais non, mais... Oh, mais l'embarcadon là-bas. Oh, les pavillons. Je vous dis, ils n'avaient pas la pause, les pépés. C'est vrai qu'il arrivait qu'ils aimaient autant les boire un coup que... Comment dire, rester à la goule d'un fou. Parce qu'il y a un vieux dicton aussi, on dit. Les gens qui étaient à la goule d'un fou, qui est le plus embarrassé. Mais oui, parce qu'il a la responsabilité de ce qui se passe. pour faire brûler le pain, pour faire brûler les... J'aurais dû mettre davantage de papier. On va y aller. Donc, toujours au bout de la flamme. Hein. Attention, pas faire brûler votre truc. Petit mot est en brisson.
L'abbé Bourgoin, Saint-Michel-en-Lerme.
Cette contrée m'a paru très différente parce que je suis d'un coin, vous devez connaître sans doute, puis de la foire aux chiens. Hein? C'est connu ça. Bon, je suis de là-bas. Bon. Alors quand je suis arrivé là, je n'arrivais pas à comprendre ce pays. Le fumier, il servait à faire des bouses. Vous savez ce que c'est? Non? Comme dans ce coin, il n'y avait pas de bois. Alors, ils ont fait du fumier, ils l'asséchaient, pour en faire ce qu'on appelle des bouses. Et pour faire, pour le chauffage. Alors, dans les cheminées, vous aviez la bouse qui brûlait, qui chauffait. Ou un beefsteak sur la bouse, c'était pas si mauvais que ça. Mais il y avait une odeur. Premier temps, hein, sui generis. Au premier temps, ouais, ça vous repulsait. Mais quand vous étiez habitué, ça... Il y avait deux sortes de bouses, d'ailleurs. Il y avait ces bouses-là que l'on fabriquait. Il faudrait venir... Ben vous pouvez venir à le foyer rural de Trièse. Fait une fête au mois d'août où il explique comment faisait les bouses. Mais concrètement. Mmh. Ouais. Et puis, vous aviez aussi, au mois d'avril, on envoyait les bêtes dans les communaux. Les communaux... Ça a toujours existé en France. Si on fait de l'histoire, on trouve que les communaux, c'était les bois, les terres en jachère, et qui en principe appartenaient à tout le monde. Mais peu à peu, j'ai l'impression que les seigneurs ont revendiqué, ne serait-ce que pour gérer, n'ont revendiqué la possession de ça. Mais les manants de l'époque pouvaient y mettre un certain nombre de bêtes, en payant un petit loyer. Oui. Bon. Et ici, c'est pareil, dans les communaux. Oh, ça, c'est très peu maintenant. Mais il y a encore des communaux où il y a des bêtes. Voyez-vous ? Ah, ben, une redevance. Et dans ces communaux, ben, par le fait qu'il y avait des bêtes, il y avait de la bouse. Et cette bouse, on l'appelait le bousa, parce que c'était beaucoup plus petit. Mais, comme quoi c'était pays pauvre, dans ces communaux, les gens allaient chercher la bouse, mais à certains jours. C'était réglementé par la mairie, à certains jours, et un certain nombre de personnes par famille.
Je suis sorti d'une famille de 8 enfants. Alors, forcément, les plus vieux de mes frères ont resté avec mon père. Mon père faisait le laitier. Moi, j'ai parti, j'étais l'année dernière. Il fallait que je parte. Il n'y a pas de place pour moi à la maison. Il a fallu que je parte de chez moi. Comme mes sœurs. J'avais des sœurs aussi. Elles ont parti comme moi, bonnes dans les fermes. Et puis moi, comme moi, pareil. Alors, il a fallu s'y habituer. Il n'y avait pas de façon d'y voir. Il fallait sortir de là. Hein. Et oui.
Raoul Augereau, Saint-Denis-du-Péré.
Ah, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'ai parti chez moi, mon service de canitude à 13 ans, puis j'ai parti dans les fermes tout de suite, hein.
Ah oui.
Comme petit commis, on appelait ça, ah, je sais pas si vous allez me comprendre, on appelait ça Gorayour, c'est pour que là, dans le coin, là, Gorayour. C'est-à-dire qu'il fallait s'écoper des cochons. Les Goré, Gorayour, vous voyez?
Et vous faisiez quoi?
Alors, ben, je m'occupais des cochons, je couchais avec les cochons la nuit, avec la coche, quand ils voulaient bien faire ses petits. Alors, on couchait avec la coche la nuit, avec une dame qui était avec moi, la bordière, on appelait ça une bordière. C'était des gens domestiques comme moi, qui étaient là, à la ferme. Et puis, elle disait, allez, Raoul, viens avec moi, puis on va aller surveiller la coche, pour qu'elle fasse ses petits. Alors, on couchait dans le cochon avec une lampe pigeon, un truc comme ça. On les cueillait, comme ça, quand les petits venaient, on les cueillait, puis on les mettait de côté, quoi. Dans la paille, dans un toit, dans un petit toit, comme ça. Ouais. J'avais 13 ans. 13 ans, 13 ans et demi, parce que je partais sur de 13 à 14 ans, quoi. 13 ans et demi, oui.
De quel côté ?
Ouais, si, à Saint-Denis-du-Péray. Dans une ferme qui s'appelle Villeneuve. Villeneuve, ça s'appelle. C'est pas loin, là. Hein. Moi, je suis natif de Trieste, par contre. Je suis natif de Trieste, alors, hein, beau jour, bon. Les patrons sont venus, il fallait chercher un petit commis, parce qu'on faisait de tout, hein. Je m'occupais des cochons, je m'occupais des lapins. Il y avait une grosse une quantité de lapins. J'allais ramasser à manger au lapin tous les jours, deux sacs d'herbe tous les jours. Et puis après, le matin, j'étais le premier élevé de la ferme. Je faisais le feu, je mettais la potée de mojette au feu. Vous savez ce que c'est que la mojette ? Les haricots. Tous les matins, parce qu'on mangeait de la mojette à tous les repas. La mojette, autrement dit, des haricots blancs. Oui, on mangeait des haricots blancs tous les jours. On ne mangeait pas que ça, mais on mangeait des haricots blancs à tous les repas. J'étais le premier élevé de la ferme. J'avais 13 ans et demi, c'est moi qui, en me levant, le fermier, c'est pas le fermier, le bordier, on appelait ça un bordier. C'est le gars qui menait la ferme, pour ainsi dire. Il y avait le patron, mais il y avait le bordier en dessous, le grand valet, qu'on appelait ça aussi. C'est lui qui menait la ferme, quoi. Alors, bon, il couchait au-dessus de moi, je couchais en dessous. Il frappait sur le plancher, il est Raoul debout. Allez, Raoul se levait. Il allait chercher les vaches dans le pré et il faisait pas toujours jour. Il faisait pas jour. Quelquefois, je me menais sur la vache, je la voyais même pas. Et je montais dessus, pour ainsi dire, il faisait nuit. Hein. Alors, bon, je rentrais les vaches, j'étais habitué, quoi. Je rentrais les vaches, je les attachais. Puis après, ben, on se mettait j'ai appris à traire les vaches, là, gentiment, à 13 ans. Hein, à trailler les vaches. Moi puis la bordière, la dame du monsieur qui gérait la ferme, quoi, pour ainsi dire. Voilà. On a appris à traire les vaches, là. Voilà, puis dans les journées, il n'y avait jamais chômage. J'ai appris à lier les bœufs, vous savez ce que c'est ? Non, on avait des jougs, vous avez entendu parler des jougs de bœufs. Eh ben, tous les jours, j'allais cueillir les choux. Alors, je liais mes deux bœufs, j'allais chercher mes fagots de choux quand ils étaient faits dans le champ, avec mes deux bœufs, ma charrette. Je liais mes deux vieux bœufs, parce que les vieux étaient plus commodes que les jeunes, automatiquement. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin bref, c'est comme ça que ça se passait, quoi. Et puis, voilà, je m'occupais de tout un peu, quoi. Surveillais. Je faisais mon boulot. J'étais commandé, j'étais surveillé, quoi. Fallait faire. Je faisais la vaisselle. Je nettoyais la place avec le balai. Je nettoyais la maison, tout. La ville, quoi. Je cherchais mon jour lapin. Hein. Il y avait toujours de l'occupation, il y avait toujours quelque chose. L'hiver. Quand les bêtes, vous savez, dans les grosses fermes, les bêtes rentrent à l'écurie l'hiver. Alors, bon, j'étais, parce que j'étais pas tout seul, il y avait le bordier que je vous parlais tout à l'heure, il y avait le toucheron qu'on appelait, le gars qui touchait les bœufs, qui faisait, c'était pour ainsi dire son métier, toucher les bœufs du matin au soir. Parce qu'il n'y avait pas de tracteur à l'époque. Hein. Alors, moi, je faisais le petit travail à côté, quoi. Voilà. Mais
c'est-à-dire que vous étiez au-dessous, il y avait une hiérarchie.
J'étais tout à fait le bas, tout à fait le plus jeune, quoi. Oui. Tout à fait le plus jeune. Alors, c'est moi qui vaquais un peu partout, quoi. Je m'occupais des vaches. Quand les vaches étaient traites, il fallait les renvoyer au pré, et puis ainsi de suite. Il fallait aller écueillir les choux, on appelait ça, vous savez, faire des fagots de choux, des fagots de betteraves, toute espèce de trucs. Ah, il y avait de l'emploi à volonté. Et tous les jours, il fallait mettre le pot de mojette au feu. Un pot en terre, vous savez, on mettait ça devant le feu. J'avais fait un beau feu le matin, déjà au départ. Après, quand le feu était bien, j'avais ma combine, enfin, d'habitude, quoi. Un beau de terre. Je mettais un bon litre et demi de haricots secs, comme ça, avec de l'eau. Enfin, puis on les mettait devant le feu, comme ça. Puis la mojette cuisait, comme ça. Et c'était bon, ça. Avec un petit morceau de beurre et un gros, ça faisait très bien. C'était bon. Voilà.
Et le soir ?
Ah, ben le soir, ben à midi, quand on avait mangé, ben, je ramassais le couvert. Je faisais la vaisselle, je ramassais les couverts, je faisais la vaisselle. Le soir, encore pareil, quand on avait soupé, quand je m'en allais, le ménage était fait. Hein. Je ramassais le couvert, je faisais ma vaisselle avant de me coucher. Après, quand j'avais fini, j'allais me coucher, comme les autres. Mais toujours, lever le premier et coucher le dernier, étant plus jeune. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Hein. Ah, pas malheureux quand même, enfin... Un peu, c'est pour un gosse, c'était dur, parce que chez mes parents, forcément, on était gamins, on était à l'école, mais quand on est arrivé, il a fallu se mettre sous joug tout de suite, hein, c'est dur, hein. J'ai pleuré, je peux vous le dire, j'ai pleuré.
Comment ça s'est passé ce premier jour-là?
Ben, je vais vous dire la première fois ce qui m'est arrivé d'abord. Une chose très étrange, vous croyez peut-être pas. Mais dans les fermes, c'était des gens qui mangeaient, ils étaient habitués, ils mangeaient très vite. La première fois que j'ai rentré, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. J'ai rentré là-dedans, tout le monde s'est mis le soir pour à la soupe, quoi, à l'heure du repas le soir. Eh ben, tout le monde. Et puis alors, on mangeait comme des bêtes, pour ainsi dire. Bon, la cuillère, puis flouf, 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 il fallait y aller, là. Moi, j'avais juste fini de manger ma soupe, tout le monde. Parce que quand le grand valet, le bordier, fermait son couteau, il fallait déguerpir. Il fallait prendre la porte tout de suite, hein. J'ai mangé ma soupe, j'ai eu honte, je me suis mis à pleurer, j'ai pas mangé plus, hein. J'ai mangé que ma soupe. J'ai pas le temps de manger le reste, hein. Je me rappelle, ça ne m'a pas arrivé tellement parce qu'il fallait que je m'y mette aussi. Hein. Il fallait y passer, là. Hein. Je m'y suis mis, forcément, parce qu'après, il fallait manger très vite. Pas une parole en mangeant, on était comme des bestiaux, pour ainsi dire. Hein. On mangeait très vite, et puis... c'est pas qu'on mangeait mal, on avait ce qu'il fallait pour manger quand même. Enfin, il fallait manger très vite. Il ne fallait pas perdre de temps, le boulot. Il n'y avait que ça qui comptait. C'était le boulot qui comptait, il n'y avait pas autre chose. Voilà. Et oui.
Tiens, à côté, il y a l'autre héron qui a attrapé autre chose. J'arrive pas à le voir avec les jumelles. Je prends vite un petit peu d'anguille. C'est une petite anguille.
Alors par contre, lui, il est plus loin des nids, donc il n'est pas embêté, lui. Tranquille, hein, il va lui écraser la tête. Il va même pas la remettre à l'eau, je pense pas. Il va l'avaler comme ça. Et il va ensuite, vraisemblablement, se toiletter le bec. Alors là, les petites anguilles comme ça ne dure vraiment pas longtemps. Et il va pas en avoir pour longtemps à la faire disparaître. Par contre, quand c'est des plus grosses, ça peut durer facilement 10 minutes, un quart d'heure. Alors ça y est, elle est dans l'alignement du bec. Là. Elle n'en a plus pour longtemps. Il attend qu'elle soit bien morte. Donc une anguille, même une fois avalée, bouge toujours. Il n'est pas rare de les voir encore bouger dans le cou. On voit des déformations du cou d'ailleurs. Mais là, est-ce qu'il va y arriver ? Ça y est. Ça y est, hop, il se nettoie le bec. Voilà, parce qu'il y a évidemment sur l'anguille plein de glu, là, plein de substances gluantes, ce qui ne doit pas être très agréable pour lui. C'est systématique, il se nettoie toujours le bec après la capture d'une anguille. Et voilà. À la suivante maintenant. Et comme ça jusqu'à la tombée de la nuit. Et ces hérons, il faut savoir qu'ils sont particulièrement abondants ici. Ils viennent ici parce que, bon, il faut savoir que c'est pas pêché, donc il y a beaucoup de poissons. Et puis, ils bénéficient d'un petit bois, là, sur la commune de Saint-Denis, où ils vont nicher. Il faut savoir que c'est la plus grosse colonie nicheuse de Vendée, avec 220 couples, hein, chaque année, qui se reproduisent dans les bois, donc sur la commune de Saint-Denis-du-Perray. Donc ils descendent sur la réserve pour s'alimenter.
Alors, voilà, la pièce centrale, là. C'est là que se prenait... C'est la vie, là, dans cette pièce. Les repas, où ça existe encore, on déballe tout, là. Tout ce qu'on va faire, tout ce qui s'est fait, tout ce qu'on pense, tout ce qui ne va pas marcher. Tout... Ah ben, la famille, et puis le personnel. Puis les gens qui viennent déjeuner ou là c'est autour de la table, c'est le conseil de famille élargi. Autrefois les hommes à partir de la guerre de 14, ils avaient pris des habitudes un peu plus libertines. Alors certains allaient au café et la femme avec le grand volet, les petits commis, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Il y a des hommes qui... C'était un petit peu en bourgeoisie, quoi.
Attention, il y a autre chose encore. Je faisais la vaisselle. Ah, voilà, quand t'as un truc de mémoire. Je faisais la vaisselle, mais j'avais pas de chance. Le patron avait un verre spécial. Ah oui, ça, c'était... Vous savez, les verres avec une poignée... Un verre à côte, un grand verre, un verre de patron avec une poignée. Toutes les fois que je faisais ce bon Dieu de verre, j'arrivais à casser ce verre-là. Je cassais, je ne sais pas pourquoi, quelle raison, je cassais le verre. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, deux, trois fois. Oui, mais j'étais puni, il fallait que je paye le verre. Et j'avais pas un sou dans ma poche. J'avais pas un sou, quoi, je gagnais rien. Alors on me punissait, il fallait que je me débrouille. Hein. Il fallait que je me débrouille pour arriver à payer le verre. Il m'est arrivé deux fois différentes. J'ai cassé le verre au patron sans, involontairement. Mais il a fallu que je paye le verre, il a fallu que j'aille à Grue. Il y avait un monsieur, une petite épicerie là, qui vendait des verres comme ça, en ce goût-là. Et puis il a fallu que je paye le verre au patron. À deux fois différentes, j'étais puni là, il fallait pas faire attention. Ah, ça vous apprend à vivre ça, attention. Ça vous apprend à faire attention, ça. Sûr.
Qui et c'était le patron?
C'était un monsieur âgé, monsieur Percot, il s'appelait Jean Percot. Monsieur Percot.
Il habitait sur la ferme?
Ah, il était sur la ferme, il vivait avec nous. C'était le patron, quoi. Il nous supervisait, quoi. Il travaillait pas tellement, lui. C'était les patrons de l'époque, quoi. Il faisait les foires, lui, il allait se promener. Mais il nous faisait travailler, il ne nous laissait pas rien faire, pour être quoi, bien sûr. On était donc trois, il y avait le bordier, je vous disais tout à l'heure, le toucheron qu'on appelait, qui touchait les bœufs, qui faisait pas un signe que ça, lui, du matin au soir. Puis moi, après, qui venait derrière un petit peu, quoi, qui donnait un coup de main aussi, un bon coup de main, forcément. Et oui.
Et vous n'étiez pas payé?
Ah si, bonne gens. Pour dire qu'on était payé, j'ai gagné mon premier service que j'ai fait de 9 mois pour 13 francs. 1300 francs à l'époque, c'était pas les nouveaux francs, c'était les anciens francs. 1300 francs pour 9 mois. Alors, qu'à faire le calcul, vous allez voir un peu l'argent que ça fait. Oui, on était lavés, couchés, nourris.
Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent?
Ah, bonne gens. Mes parents n'étaient pas riches, il fallait que je la donne à mes parents. J'avais des frères en dessous, parce que mes parents, en ce moment-là, ils ne touchaient pas d'allocation familiale. Hein. C'était pas comme aujourd'hui, hein. C'était pas le même truc. Eh oui, mes parents prenaient mes sous. Puis quelquefois, mes parents ne pouvaient pas attendre. Ils écrivaient une lettre au patron, puis ils disaient, pourriez pas nous envoyer 100 francs, ça nous arrangeait bien. Eh oui, à l'époque, c'est comme ça. Enfin, je me rappelle de ça. Ça ne me faisait pas plaisir, hein, je crois. Je peux vous dire que quand le patron me disait, tiens, j'ai reçu une lettre de ton père, qui me demandait quelques sous pour donner un petit coup de main à la maison, là-bas, ça ne me faisait pas plaisir, ça ne me plaisait pas. Mais c'était comme ça.
Hé là, passez dedans au nom de Dieu là. Vous livrez les gars de nous.
J'ai pas fait que cette ferme-là, attention, j'en ai fait d'autres. Hein. J'en ai des marques dans le dos encore là. J'ai fait au moins 7 ou 8 fermes. Et même que j'étais bien, je disais, allez, je m'en vais ailleurs, je vais voir ailleurs. J'aimais bien changer de patron. J'ai été 2 ans dans une ferme, le fils était parti à l'armée, au régiment là. Et puis le patron a dit, Raoul, tu viendras remplir. Il s'appelait Auguste, un copain d'école, on avait été à l'école ensemble. Tu viendras remplacer Auguste les 2 ans que je suis parti au régiment. Alors là, j'étais bien. J'étais comme le fils de la maison, là. On a tous été à l'école laïque, là. Je faisais partie de l'amicale, puis on faisait du théâtre. Alors attention, hein. Pour sortir de la ferme où j'étais en plein marais. J'y étais 2 ans, le temps que le fils était au régiment, à l'armée, là. Pour sortir, c'était du marais à 100%. Hein. C'est au bout du lac de Luçon, là. Vous savez, le plan d'eau de Luçon, les guifettes, là. Mais c'était tout à fait au bout de ce lac, là. C'était du marais. Alors l'hiver, on sortait qu'avec le bateau. Tout l'hiver, je le livrais le lait. J'allais porter le lait là-bas sur la route de Luçon, vers les Fontenelles. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je livrais le lait avec tous les jours en bateau, à la pigouille. J'emmenais 2-3 bidons de lait comme ça. J'emportais tous les jours. Et puis le soir après, quand moi les vaches, les bêtes étaient soignées, le patron me disait, mais Raoul, si tu veux t'en aller, à tes répétitions de théâtre, je prenais encore le bateau. J'allais en bateau. J'allais faire mes répétitions de théâtre en bateau, monsieur. Ah, vous êtes courageux, hein?
les guifettes, ce sont des petits oiseaux, il faut le rappeler, qui sont complètement migrateurs, qui passent tout l'hiver en Afrique et qui viennent chez nous à partir du mois d'avril. Et c'est un va-et-vient permanent au-dessus de l'eau, puisque ce sont des oiseaux essentiellement insectivores qui se nourrissent donc d'insectes qui sortent de l'eau à cette époque-là de l'année. Et on les voit sans arrêt donc au-dessus de l'eau. Il y en a une là qui vole. Hein, elle se laisse de temps en temps tomber juste à la surface de l'eau. Elle gobe en fait sans arrêt des insectes. Il y a un héron là qui passe. Hein, il va se poser là, toujours à la recherche d'une éventuelle anguille hein, qui traînerait dans les parages. Alors ça, c'est un spectacle impressionnant. Et regardez ce qui se passe. Le héron vient de se poser trop près des nids de guifettes. Et le héron se fait harceler par une guifette. C'est ce cri-là, très, très strident là, qu'on entend. Et là, tant que le héron ne va pas bouger, eh bien les guifettes vont continuer à harceler. Il arrive aussi qu'elle se lasse, vu l'indifférence du héron. Ça, c'est des choses qui arrivent. Là, ce qu'on entend, c'est cette espèce de sifflement, on l'a répété deux, trois fois. C'est le chevalier gambette. Chevalier gambette, ça a la taille d'un petit pigeon, ça a les pattes rouges, et c'est un des limicoles qui niche dans la réserve. Souvent, ce limicole niche à côté des vanneaux huppés, qui se reproduisent également dans la réserve. On voit quelques couples de vanneaux là-bas qui gesticulent, qui font des pirouettes en l'air. On a vu le ragondin tout à l'heure, ça me fait penser à un mammifère qui est en voie de disparition dans toute l'Europe. Il n'en existe que dans quelques départements français actuellement, et notamment dans l'Ouest, c'est la loutre. Et régulièrement ici, sur la réserve, on a la présence de loutre. C'est un animal nocturne qu'on ne voit pas, qui ne fait pas de bruit. Moi personnellement, je ne l'ai jamais vu sur la réserve, mais par contre, c'est un animal que l'on voit régulièrement par ses indices de présence. On trouve des carpes, par exemple, qui se sont mangées par la loutre et qui sont laissées en bordure de... On voit les arêtes laissées en bordure de l'eau. On retrouve les empreintes dans la vase qui borde le plan d'eau. On retrouve des traces dans la boue, ces empreintes. Et on trouve également parfois ces gîtes ou ces catiches, ces endroits où elles le mettent bas. Alors ça, c'est assez extraordinaire de penser que dans un milieu comme celui-là, si devant nos yeux, quoi, on a encore cet animal mystique puisqu'on ne le voit jamais. Il faudrait avoir des yeux de chouette pour peut-être réussir à l'observer.
Ah, on a autre chose qui est bien mieux chez nous. On a les cigognes. Christian ne vous a pas dit ça, qu'on avait les cigognes à Saint-Denis. Vous connaissez Christian?
Elles sont là, les cigognes?
Ben, elles sont là, mais cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne tourne pas comme d'habitude. C'est dit qu'elles sont vieillies. Je ne sais pas à qui c'est dû. Elles ont commencé à...
Il n'y a pas de petits.
Il n'y a pas de petits. Ils ont commencé à couver de bonheur. Elle a pondu sûrement, parce qu'elle est restée sur le nid longtemps. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de petits. Alors maintenant, elles reviennent encore longtemps. On a encore confiance qu'elles commencent une deuxième ponce, peut-être. Ça s'est produit une année, ça. Parce que quand les cigognes se sont intitulées dans la commune, là, elles ont commencé sur un vieil arbre mort. Vous savez, qui était incliné comme ça. Puis elles avaient fait un nid sur un arbre mort, comme ça. Puis un beau jour, parce que les cigognes, tous les ans, quand ça vient, ça recharge le nid. Vous savez, c'est de la terre, c'est de la paille, de la saloperie qu'elles amènent. Et puis ça charge, et puis ça pourrit, puis ça fait lourd. Ça fait pipe. C'est un nid qui est quand même assez, assez volumineux, quoi. C'est large. Alors, l'arbre mort, un beau jour, il a eu marre d'elle. C'était trop chargé, et puis l'arbre a fait quick. Elle est tombée, il y avait trois œufs dedans. On m'appelle, c'était un dimanche matin, ça. J'étais là, puis les cigognes passaient au-dessus, partout. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Les cigognes sont toujours en train de passer partout là-dedans. Alors, les cigognes, elles cherchaient à faire un autre nid tout de suite, parce que la ponce n'était pas faite, elle n'était pas finie. Alors, on appelle ça un logis en bas, là. Je les avais vus sur les cheminées. J'ai dit, pas pareil, elles vont faire un nid sur les cheminées. Non, elles n'ont pas fait un nid là. Elles avaient fait un nid sur une ligne électrique qui faisait un peu le...
juste le poteau qui était au coin.
Un peu l'angle, là, oui. Un nid qui faisait l'angle, comme ça. Ils avaient réussi. J'avais un voisin qui s'en occupait aussi. Il leur avait mis un fagot de sarment en bas pour leur aider, pour que ça aille plus vite. En effet, elle ramassait les sarments, puis elle montait ça là-haut, puis le nid était fait en moins de deux. Hein. Puis elles sont mis à pondre. Puis il y en a eu, je ne sais pas combien cette année.
Je ne sais pas combien.
Quatre ou cinq petits gazelles, fait quand même. Elles sont mis à pondre, puis ils ont encore eu des petits. Et puis un beau jour, autant d'humilité quand le nid a été formé, mais ça foutait des courjus là-dedans. Alors les voisins ont dit, mais ça va pas, le nid de cigogne nous embête. Alors ils l'ont défait. Ils ont défait ce nid-là. Les électriciens sont venus, puis ils l'ont descendu. Puis on tenait aux cigognes quand même, parce que c'est assez rare quand même dans notre coin de voir des cigognes. On n'avait jamais vu ça d'ailleurs dans notre secteur. Un beau jour avec le garagiste, là, un bon voisin, un bon gars qui tient le garage, là. Il dit, allez, faut qu'on, on a des vieux poteaux, là, qui traînent, là. Il dit, j'ai un cousin qui a une pelle, là, on va le faire venir avec sa pelle. On va prendre des poteaux, puis on va implanter des poteaux dans le coin, là-bas. On avait implanté deux poteaux qui sont encore, si vous avez été les voir, des poteaux qui sont là-bas, c'est nous qui les a mis. C'est nous qui les a mis, les poteaux. C'est moi, c'est, d'abord, il entre, il est sur le bord de mon champ, entre mon champ et le champ de mon voisin. Le champ est à côté de chez nous, là, sur notre terrain. Là, c'est nous qu'on a fait le trou. La pelle est venue. Il a pris un poteau qui était à traîner par là, dans un coin. Et puis, il nous a emmené ça là-bas. Puis, c'est nous qu'on l'a placé. Et puis, le garagiste, là, il avait fait un cercle autour à la tête du poteau avant de le monter. Comme ça, on avait mis des branches dedans. Elles sont installées tout de suite. Elles ont pris tout de suite. Allez, elles ont compris, les cigognes. Pas folles, hein. Quand l'autre a été défait, allez, tout de suite là. On en a fait deux. Il y en a un qui est plus long que l'autre. Ils n'ont pas pris le petit, ils ont pris le grand, hein, le plus haut possible. Ils ont pris le grand. Et puis depuis, à nombre d'années. Oh oui, il y a déjà, je ne sais pas moi, 7 ou 8 ans, 10 ans peut-être quand même, qui est fourni là-dessus. Hein.
Moi, je
ne
sais pas si c'est
10
ans.
Oh, 7 ou 8 ans, tu sais. Ah oui. Ah oui, 7 ou 8 ans, que je l'aime déjà. Là. L'an dernier, il y a 2 ans, il y en avait 5. Il y a 3 ans, il y en avait 5. Il y a 2 ans, il y en avait 4. L'an dernier, il y en avait 3.
Ah,
c'est 3 petits. Puis cette année, on ne sait pas
Mais alors les petits, je ne sais pas, ils ne reviennent pas, c'est bizarre.
C'est bizarre.
Ouais, bon, là, ce qu'on entend, c'est deux batraciens. Il y a surtout donc, le croissement continu des grenouilles vertes et un craquement beaucoup plus fort. C'est la rainette arboricole qui est souvent hors d'eau. Elle est perché, c'est une toute petite rainette verte qui a des ventouses aux pattes et qui peut donc chanter hors de l'eau. Là, il y a des piquets de clôture, il se peut qu'elle soit sur les piquets ou sur les végétaux en bordure des fossés. Et dans le fond, ce bruit continu qu'on entend, cette espèce de roucoulement continuel, eh bien c'est la courtilière, c'est un insecte préhistorique avec une carapace impressionnante. Et elle produit donc ce petit bruit continu nuit et jour. Voilà, les conditions sont parfaites, il n'y a pas de vent, la nuit est douce, donc pour les batraciens c'est vraiment l'idéal. C'est l'ambiance classique, quotidienne, ici, toutes les nuits de printemps. Ouais, c'est les grenouilles vertes que l'on entend là. Alors il y en a plusieurs. Il y en a plein le fossé. Elles doivent être posées sur l'eau, à la surface de l'eau. Leurs joues se gonflent régulièrement. Et voilà, là ce sont les rainettes arboricoles, le craquement très fort. Qu'on entend nettement là. Alors là, bon, on est en période de reproduction, hein, c'est pour ça qu'il y a tant d'activités dans l'eau et sur le sol. Et c'est les accouplements, elles vont ensuite pondre des œufs qui vont donner donc des têtards qui vont se développer dans le milieu aquatique et qui ensuite donc donneront des petites grenouilles. Et au mois de juillet, août, on peut voir des concentrations impressionnantes de grenouilles également sur ces fossés. Le principal prédateur, c'est l'homme, hein, puisque c'est les grenouilles ont une valeur gastronomique importante dans la région et elles sont assez pêchées dans tous ces fossés. Alors elles sont pêchées avec plusieurs techniques, mais la technique la plus courante, c'est au pompon rouge. Et à la canne, quoi, à la perche.
Christian Pactot.
Moi, je viens du bocage. Et dans le bocage, les gens sont vraiment des entrepreneurs. Des gens qui ont et qui veulent véritablement être très, très, très performants. Il est fort, fort probable que dans le Marais, les gens vivaient d'une façon complètement différente. Parce qu'ils vivaient à la fois de l'agriculture, mais aussi de la chasse. Ils vivaient de la pêche. Ils vivaient d'une foule de petites choses les unes à côté des autres. Et donc, ils avaient un système de vie qui était ce qu'il était, mais qui était totalement différent de celui des gens du bocage. Qui, pour eux, l'agriculteur, c'était la seule chose. Il fallait réussir dans l'agriculture pour réussir, parce qu'il n'y avait que cette voie-là. Tandis qu'ici, on pouvait vivre, malgré tout, en allant à la côte même. La dame à laquelle j'ai acheté la maison, j'habite à 12 km de la côte, elle allait à la côte avec sa brouette et son fils pour ramasser les huîtres et les vendre, par exemple. Donc, un temps où le temps ne comptait pas comme aujourd'hui. Et il y avait certainement une certaine mentalité différente. Je dirais une mentalité dans le Marais qui était moins entreprenante, qui était plus un bien-vivre, si j'ose dire, ou un vivre au jour le jour, que dans le bocage, où on essayait toujours d'être très performant, d'être levé les premiers le matin et que ça se voit, ouvrir les portes le plus tôt, etc. Ce qui était certainement moins le cas ici. Mais il se trouve que, bon, la sociologie est ce qu'elle est, et les populations et les mélanges sont ce qu'ils sont, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont été attirés, qui étaient des gens du bocage, qui ont été attirés par des prix intéressants des terres dans le Marais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces gens, et c'est pas un hasard, sont venus s'implanter dans le Marais. Ce sont eux qui cherchent à faire des zones qu'ils ont achetées, des zones agricoles performantes aussi. Et je crois qu'il y avait certainement une... Bon, je suis pas sociologue, ni historien, ni quoi que ce soit, mais peut-être que dans la généralité, on peut dire qu'il y avait des mentalités assez différentes entre le bocage d'où je viens et ici, dans ce marais, qui vivait d'un spectre beaucoup plus large d'activité.
Et une plus grande douceur de vivre ?
Comment le dire ? C'est difficile de dire ça. Parce que quand je songe à la dame à laquelle j'ai acheté la maison, qui devait avoir 2 hectares de terre, 2 vaches et 2 cochons, et qui devait aller à la mer chercher ses huîtres avec une brouette, est-ce qu'elle avait vraiment la douceur de vivre ? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais la façon de vivre, certainement, était différente. Puisque dans le bocage, c'était la terre et rien d'autre. Tandis qu'ici, c'était la terre, mais aussi la chasse, mais aussi la pêche, et aussi la pêche en mer. Enfin, en bord de mer, etc. Donc il y avait un spectre d'activité qui était extrêmement large, qui permettait aux gens de vivre au jour le jour, sans avoir besoin d'avoir un besoin d'entreprise très, très important. D'autant qu'ils en étaient certainement freinés, que leur système de propriété était très très faible. Alors qu'à l'intérieur du bocage, le système de propriété était assez différent, dans la mesure où la plupart de ces agriculteurs qui étaient très entreprenants étaient les agriculteurs qui étaient mis dans ces métairies, c'est-à-dire qui n'étaient pas propriétaires de leur ferme, mais ils étaient des fermiers, des locataires, des gens qui étaient là pour travailler, uniquement pour travailler, et qui souvent devaient donner la moitié des produits, la moitié de la métairie, ils devaient donner souvent autrefois la moitié des produits qu'ils avaient récoltés, donc ils avaient vraiment intérêt à produire au maximum. Ici, on devait avoir une sociologie qui était complètement différente, avec un régime éclaté, toute petite propriété. Et alors, je parle bien du village, de la structure du village, parce que à l'intérieur même du desséché, on rencontre quelques fermes qui, elles, du coup, c'était un régime de grande propriété. Mais ça, c'est complètement différent, parce que vous allez rencontrer ce qu'on va appeler des cabanes. Alors les cabanes, par exemple, la cabane de Choisy, vous en voyez. Les cabanes, ce sont des fermes qui ont été établies à l'intérieur même du marais. Et ce sont les seules habitations, pratiquement, que vous allez trouver à l'intérieur même du marais. Ici, vous avez le Clos Labbé, vous avez la Caroline, vous avez donc... Alors ça, c'est vraiment complètement différent par rapport au village dans lequel je suis.
À l'origine, c'était des petites cabanes, voyez-vous. Et probablement, tout à fait au début, des cabanes de pêcheurs. Et ensuite, il y a eu donc des constructions. Mais le nom est toujours demeuré cabane. Et ici, on oublie. Dans les marais mouillés, c'est la hutte. Alors, moi, je ne trouve pas ça très juste, mais c'est la hutte. Alors, l'habitant de la hutte, c'est le huttier. Les gens du Poré, qui habitent dans le marais, les gens du Langon, les gens de Moussaï, tout le littoral de la ceinture, sont des hutiers. Là, ce sont des cabaniers. Alors, il y a eu, surtout dès le début des dessèchements, il y a eu une différence d'appréciation de la valeur des gens. Cabanier, on est en cabane, attention. Hein. C'est une grosse cabane. Tandis que le hutier, lui, il était resté avec son bateau, ce qu'on expliquait tout à l'heure, au bord de sa petite propriété, pratiquement les pieds dans l'eau, lui. Tandis que le cabanier, il avait profité des travaux spectaculaires, si on peut dire, des dessèchements. Et il était hors d'eau, avec des grandes surfaces. Et un parcellaire, un très beau parcellaire. Les exploitations faisaient au partage entre 30 et 80 hectares dans le marais desséché. Et les parcelles faisaient entre 3 aussi et 10 hectares.
Dans le mouillé?
Ah, le mouillé, il y en avait d'un art, il y en avait de 50 centiards, jusqu'à ces jours derniers. Là, c'est ça, il fallait y aller en bateau. C'était au péril de l'eau. Là, souvent, les cabanes ont pris le nom de leur premier propriétaire. De ceux qui ont... Ils ont quand même... Il y a un terme qui est employé, ils ont peiné et mis louis. C'est-à-dire qu'ils ont mis de l'argent. Ils ont peiné et mis louis. Ils ont donc engagé une bonne partie de leurs revenus et leur nom, le nom de ces familles, est là.
Sortie de la messe à Saint-Georges-de-Rex, dans le marais mouillé.
Thank you.
René Louis, maître de digue.
On était plus, peut-être plus distants, nous, au point de vue religieux, nous là, plus distants que la plaine et le bocage vendéen. Hein. On fréquente beaucoup moins. Les gens du Marais fréquentaient beaucoup moins. Il y avait des familles très, très religieuses, croyantes, qui allaient à l'église, mais moins que dans le bocage. Et ça vient un petit peu de la domination des gens du bocage qui sont encore, il y en a encore quelques-uns, bon, enfin, non, ça n'existe plus maintenant, sous la coupole de leur maître. Parce que dans le bocage, hein, souvent de fois, le maire de la commune ou le comte de la commune avait 7-8 fermes à lui. Vous étiez le fermier, vous étiez le métayer, et vous étiez presque une obligation d'y aller. Hein. Chez nous, on était beaucoup plus libre. Ah oui. Beaucoup, beaucoup plus libre. Il y avait des familles très croyantes chez nous, mais beaucoup moins qu'en plaine, en bocage. On pratiquait beaucoup moins. Nos églises le dimanche n'étaient pas comme en bocage vendéen. Puis les fêtes religieuses étaient moins suivies aussi. Ah oui. Dans le bocage vendéen, la plaine et le bocage vendéen, il y avait des communes qui n'avaient qu'une école, c'était l'école libre. Hein. Dans nos marais, on a toujours eu l'école laïque partout, dans toutes les communes. Et dans le bocage vendéen, il y a des communes qui n'avaient pas d'école laïque. C'était l'école libre. C'est pas la même mentalité que chez nous, mais ça vient aussi du mode de vie qu'ils avaient. Ils étaient liés avec leur patron, hein. Ils étaient liés avec le bourgeois de la région. Hein. Si on n'obéissait pas tellement aux ordres et puis qu'on n'avait pas la ferme, hein, ou on était en mauvais terme avec son propriétaire, oui. Il n'avait pas peur de vous balancer à la Saint-Michel, lui.
Ici, on est plus indépendant.
Ah, beaucoup plus indépendant, puis nos propriétaires ne sont pas sur place. Parce que là-bas, presque tous les maîtres habitaient la commune, étaient maires de leur commune. À Ménard-la-Barretière, j'ai des amis, je ne me souviens plus le nom du comte, qui est très, très, très chic d'ailleurs, un gars très, très, très bien. Il a 9 fermes, 9 grosses fermes dans la commune à lui. À lui. Il pourrait faire la pluie, le beau temps. Hein? Mais il est très bien, ces fermiers, on a qu'à souhaiter de lui. Ben, avant, son père, son grand-père, puis ses arrière-grands-pères, ils n'étaient pas si bien. Hein? Ah non, chez nous, là, les gens pratiquaient beaucoup moins dans le marais. Beaucoup moins. Ah oui. Mais de tout temps, le marais était quand même plus républicain que le haut de la Vendée. Ah oui.
Quand j'étais là-bas, hein, j'étais pas le gars de la messe. Hein, j'aimais pas la messe. Mais on m'a obligé d'aller me confesser là-bas. Fallait y aller. Hein. Fallait que j'aille me confesser. Et oui. D'abord, c'était des propriétés qui appartenaient à des comtes, des marquis. C'était des grosses propriétés qui appartenaient à des messieurs, des nobles, quoi. Alors, automatiquement, ils étaient obligés d'être dans la partie. Mais moi, c'était pas tellement mon opinion. Mais enfin, il fallait y passer quand même. Il fallait que j'aille à confesse. Et puis, communion, quoi. Et oui. Enfin, on retourne en arrière.
C'était important, la religion?
À cette époque-là, oui, je crois. Je crois, plus qu'aujourd'hui. Pour eux, ces gens-là, je sais pas. Je sais pas, je crois que pour eux c'était important. C'était pour nous brider, je crois, plutôt. Pour nous tenir un peu dans le néant, un peu dans le. Hein, vous croyez pas?
C'est la pensée que vous avez aujourd'hui.
Oui, et j'ai oh oui. Ça durait trop longtemps, et ça dure encore, malheureusement. Je vais vous dire que. Enfin bref, on n'en parle pas.
Vous pouvez, de quoi vous parlez pas?
Ben, je veux dire qu'il y a trop longtemps que ça dure, ça. Parce que ces gens-là, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire franchement ce que je pense. Hein. Ils sont riches, c'est des nobles, des comtes, des marquis. C'est des propriétés volées. Vous ne croyez pas que c'est ce que je vous dis? C'est vrai? Vous ne croyez pas que c'est ça? Mais j'appelle ça pas des vrais gens, moi. J'appelle ça des malhonnêtes. Oui. Parce que. Eh oui, enfin, c'est comme ça. Quand on est coincé tous les jours comme ça, hein.
René Maté.
On oppose souvent cette partie du sud Vendée, la Chambre maritime et des Deux-Sèvres, puisque le Marais mouillé est cette entité, la géographique, est à cheval sur les trois départements, les deux régions programmes d'ailleurs, c'est un truc un peu compliqué. Mais on l'oppose, je crois, oui, à ce que, puisqu'on fête le bicentenaire, le 89, et que pour un certain nombre là d'événements, y compris dans les Deux-Sèvres ou dans Vendée, c'est plus ou moins bienvenu. On oppose effectivement les mentalités du sud Vendée ou des maraîchins à celle qui a été le bocage. Et historiquement, on retrouve effectivement, on parle de la chouannerie des guerres de Vendée, l'affrontement s'est fait jusqu'aux portes du Marais, Niort, Fontenay-le-Comte, Luçon, etc. Mais cette zone a été surtout à propos des plaines, justement, une chose d'échange. Ça veut dire qu'il y avait une paysannerie et, je crois, des gens qui étaient relativement ouverts aux idées, j'entends, hein, au progrès, au sens où, à l'opposé de leur... collègues du bocage, qui eux vivaient dans le chemin creux, sous des dominantes de hobereaux, de notables, etc. Cette région ici est la résultante justement d'efforts collectifs, de solidarité. Les maraîchins sont effectivement très, très indépendants, très autonomes. Ils n'ont pas de compte à rendre pour un certain nombre parce qu'ils vivaient quasiment en autarcie. Le pêcheur qui ramenait ses gardons, ses carpes, ses anguilles, qui allant dans la plaine avec du gibier, les faisant le perdreau. Enfin bon, il y avait tout un équilibre.
Les petites oies, il y a à peu près 22 petits oisons qui sont nés cette année, qui sont issus de 7 nids d'oies cendrées. Alors c'est assez exceptionnel, c'est peut-être même étonnant puisque l'oie d'habitude se niche dans les pays beaucoup plus nordiques que la France, mais depuis que la chasse est interdite dans ce périmètre et depuis qu'au départ il y a quelques oies désélées qui ont été mises sur cette réserve, et bien maintenant il y a une population complètement sauvage d'oies qui se reproduit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 15 jours à peine, 3 semaines maintenant, il y a eu les éclosions, et ces oiseaux-là, et bien pour plus de sécurité, regroupent tous leurs petits en nurserie, c'est-à-dire qu'ils sont tous maintenant regroupés, et ces 22 petits oiseaux qui sont gardés par 4-5 adultes, et ils sont particulièrement discrets. Alors ils viennent rarement sur l'eau, voire jamais, et ils restent toujours cachés dans la végétation. Et là-bas, on voit plus que les têtes, d'ailleurs. On aperçoit donc là, 2 adultes et puis 3-4 jeunes qui gravitent autour. Et les 22, en fait, petites oies doivent être toutes dans la cuvette d'herbe. On ne les voit pas. Alors, il est bien évident, enfin, on les comprend parfaitement, puisque les petites oies, ne sachant pas encore voler, eh bien, ont besoin d'une sécurité optimale. Elles sont toutes là-bas. Tiens, il y a un cri intéressant. L'espèce de cri répété très rapidement, c'est le courlis corlieux. C'est un oiseau qui passe l'hiver en Afrique noire et qui remonte niché très au nord, dans les pays scandinaves et sibériens. Et cet oiseau-là s'arrête pendant sa migration.
Jean Dumarais, Mehdi El Hadj, Jean-Pierre Gerbeau, Jean-Pierre Milovanov. En cabine, Pascal Bénard, Jean Fèvre. Celui qui pleurait en mangeant sa soupe, quand le grand valet fermait son couteau, et qui, à 13 ans, préparait tous les matins le plat de Maugette, Raoul Augereau, aujourd'hui agriculteur à la retraite. Celui qui allumait le four pour les tartes et qui aime le marais comme on peut aimer une femme, Constant Nolo, à Saint-Radegonde-des-Noyers. Celui qui soufflait dans ses doigts pour appeler la chouette et qui nous a montré les hérons, les guifettes, les oies et les autres oiseaux de la réserve de Saint-Denis-du-Péray qu'il dirige, Hugues Destouches. le maître de digue, René Louis. L'homme du bocage, Christian Pacteau. L'historien du marais mouillé, Jean-Michel Roy. Et du marais desséché, l'abbé Bourgoin. L'observateur privilégié des mentalités maraîchines, René Maté.
1963-2023, les iconiques de France Culture, une centaine de fictions, émissions de création, grands reportages, documentaires historiques, 60 ans d'histoire de radio à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.